CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Bonjour à tous, chers auditeurs, Marine Thierry sur les ondes de CFM pour votre rendez-vous avec l'Atelier Blanc pour parler d'art contemporain évidemment. Alors comme vous l'avez sûrement entendu ce week-end, se sont déroulées les journées du patrimoine un peu partout près de chez vous. Et dans le cadre du festival céramique à Villefranche de Rouergue, l'Atelier Blanc a décidé de prolonger le plaisir en vous accueillant jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 28 exactement, pour découvrir les œuvres d'Anne Rochette, voilà, dans le jardin de l'Atelier Blanc. Anne Rochette, artiste sculpteur qui est déjà passé dans les murs de l'atelier, c'était en 2006, et qui revient cette fois avec une nouvelle exposition autour de la céramique. La céramique, un tout premier art du feu qui demande apprentissage, patience, savoir, savoir-faire, ça y est, je marche et du coup je m'accidente, dextérité également, et c'est donc le médium utilisé, vous l'aurez compris, par l'artiste Anne Rochette, qui offre à voir des œuvres tactiles ancrées dans le modelage, principalement en céramique, ce qui n'exclut jamais la possibilité d'autres matériaux, elle va nous en parler, nourrie très certainement de ses nombreux voyages au travers le monde, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, l'Australie, la Sibérie, la Hollande ou encore les États-Unis. Anne Rochette observe le monde pour autant, son travail ne raconte pas d'histoire mais cherche à susciter une présence, une altérité. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts en arts plastiques et d'une maîtrise obtenue à l'Université de New York où elle restera presque 10 ans. D'ailleurs, c'est là qu'elle débutera ses premières expositions. Et puis, elle réalisera également des œuvres dans l'espace public. Depuis 1993, Anne Rochette est responsable d'un atelier de volume à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va aller doucement la retrouver là, puisque pendant que je vous parlais, je déambulais autour de ses œuvres. Voilà, je retrouve Anne Rochette, voilà, qui est avec nous donc dans le jardin de l'Atelier Blanc, chers auditeurs, dans le cadre du festival céramique, exposition consacrée donc à la céramique et aux œuvres d'Anne Rochette. Merci Anne d'être avec nous.
Merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors, les journées du patrimoine se sont écoulées. On a la chance d'avoir vos œuvres dans le jardin jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 28. Là, je suis revenue un petit peu sur votre parcours, le fait que vous ayez pas mal voyagé, que vous ayez vécu aux États-Unis. Vous avez quand même quelques expositions à votre actif. Vous avez aussi des commandes, des créations pour l'espace public. Est-ce qu'il serait possible de parler de votre travail en déambulant autour, tout simplement d'avoir vos mots ?
Bien sûr. Allons-y.
Alors, allons-y. Pardon. Le hasard nous fait arriver sur une sculpture, on peut dire que c'est une sculpture ?
Des sculptures, absolument. Celle-là, je l'ai appelée « Ce que l'on a partagé ». C'est une pièce un peu particulière parce qu'elle est... Elle est composite. Je travaille de façon très, très intuitive. Et souvent, je suis un fil, et parfois ce fil peut se dérouler sur plusieurs années. Parfois, ça peut aller très vite, ça peut être une question d'une semaine ou d'un mois. Et puis parfois, ça peut être 20 ans. Et dans le cas de cette pièce-là, c'est effectivement 20 ans. Parce que la pièce est partie d'un élément que j'avais récupéré, qui a été fait par mon mari, qui est sculpteur aussi, et qui avait fait une série de sculptures autour du pot ou du vase. Il avait fait une anse que je trouvais magnifique et que lui avait mis de côté parce qu'elle était fendue. Donc je l'ai gardée pendant 20 ans dans un coin de mon atelier, pendant 18 ans à peu près. Et puis un beau jour, c'est venu comme ça. Je lui ai fait ce que moi j'appelle être un corps, qui est en fait une sorte de peau avec deux ouvertures qui sont très organiques, qui rappellent plutôt des ouvertures effectivement du corps que des ouvertures de poterie telles qu'on peut les connaître d'habitude. Et j'ai greffé son anse et mon corps. Alors après, on peut dire ça comme on veut. Ensuite, il y a eu toute une période où cette espèce de pot qui tient pas debout, puisque le fond du pot est rond et c'était fait pour, je voulais qu'il soit dans un état de déséquilibre en fait, qu'on puisse pas le poser comme ça sur son fond comme on pose un pot. Donc il est resté dans l'atelier, un peu bancal, posé contre un mur, jusqu'à ce que je me dise, mais bon, c'est une histoire de sang tout ça, et il faut que ça coule. Et il faut que la couleur vienne, donc ça a dû mettre 2 ans. Donc j'ai émaillé l'anse et le haut, la surface de, d'en haut du pot avec des rouges qui pour moi ont à voir avec le sang ou avec la chair. Et puis il y a encore eu une période d'à peu près 2 ans où j'étais pas contente de la façon dont l'anse s'articulait avec le corps. Donc là je suis passée à un autre matériau complètement puisque c'est de la résine polyuréthane. Et je lui ai fait un coussin pour qu'elle puisse se tenir horizontalement et 2 sortes de manchons qui ont quelque chose à la fois d'animal et de sexuel. Et pour le moment, la pièce est terminée.
Donc, du temps pour cette œuvre, voilà, 20 ans. Donc, vous vous nourrissez, en fait, en permanence. Cette œuvre, elle est restée dans le coin de votre tête pendant ces 20 années, mais elle s'est nourrie, en fait. Et vous l'avez...
Je ne sais pas si elle s'est nourrie. On va dire qu'elle a mûri, mais encore une fois, d'une façon totalement inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si je la regardais tous les jours en me disant, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? C'est plutôt que c'est un peu comme une idée qui est une petite idée qu'on a derrière la tête. C'est une sorte de rêverie finalement. C'est une rêverie des formes, une rêverie du matériau. Et le rêve, je maîtrise pas le moment où le rêve finalement se coalesce. Enfin, il y a une sorte de coalescence. Il y a un moment où ça monte.
Oui, et puis où ça prend comme une adéquation. Vous parliez de couleurs. Quand la lumière se réverbère, sur l'objet à découvrir, c'est vrai qu'on est interpellé par la lumière, par la couleur, par la douceur des matières qui se confrontent aussi. On continue notre rêverie, notre causerie dans le jardin de l'Atelier Blanc. Chers auditeurs de CFM, Marine Thierry, la médiatrice de votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue, toujours dans le cadre du Festival Céramique en compagnie d'Anne Rochette. Alors là, on découvre encore tout autre chose. Quand je vois l'œuvre dont on va parler, j'ai envie de parler de votre engagement. De votre engagement d'artiste, de votre parole d'artiste. Je vous cite, on va voir si mes sources sont à peu près exactes. Vous dites, en parlant de vous-même, j'ai choisi d'être une artiste car c'était d'une certaine manière, la chose la plus difficile que je pouvais faire. Il est le lieu, donc l'art,
là, oui.
Où tous les choix semblaient être ouverts à moi, et c'est aussi l'endroit où je sens que je peux offrir aux gens qui regardent mon travail un espace de liberté. De plus en plus, on nous dit quoi penser. Nous en avons assez de ce que nous sommes censés être nourris, donc censés penser. Nous perdons la possibilité de faire des choix par nous-mêmes. Pour moi, il est important que l'art reste un endroit où tous ces choix sont possibles, toutes les opinions sont possibles, tous les gestes sont possibles, ou soient possibles.
Oui, je crois que à ce moment-là, je ne sais plus quand j'ai écrit. Je pense que c'était un texte écrit, il me semble, ou c'était une réponse à un entretien, sans doute. J'en changerai pratiquement pas un mot. C'est sûr que je pense que ce qui m'est essentiel dans ma pratique d'artiste, c'est ce rapport à la fois à ma propre liberté et à la liberté de celui à qui je propose le travail. Devant toute œuvre d'art, toutes les réponses sont possibles. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Après, on peut aimer passionnément, pas du tout, un peu à la folie, on peut refuser, on peut accepter, on peut être curieux, on peut passer à côté, être indifférent. Il y a surtout pas d'obligation à consommer, et il n'y a pas de consommation. C'est-à-dire que le processus de la consommation, ou alors il faudrait parler de la consommation amoureuse, mais ça c'est autre chose. Mais je pense que le rapport de l'art est fondamentalement quelque chose qui échappe à la consommation d'un produit ou même d'une valeur, même si je mets une très grosse valeur sur l'art. Je ne m'identifie pas aux gens qui consomment l'art comme une valeur, c'est-à-dire comme un marqueur social finalement.
Et vous déstabilisez le spectateur ?
Si le spectateur se sent stable, peut-être, mais finalement il n'y a pas tant d'individus que ça qui se sentent stables. Je pense qu'on a tous des zones d'ombre et d'incertitude, et qu'avec un peu de chance, ces zones d'ombre et d'incertitude peuvent être mobilisées peut-être par le rapport à une œuvre. Oui.
Vous nous parlez de cette drôle d'animal?
Oui, alors cette pièce-là aussi a une histoire un peu singulière, parce qu'en fait, ça m'arrive de temps en temps de travailler à partir de ce que j'entends, ben justement à la radio. En fait, là, on est à la radio, donc c'est drôle, parce que cette pièce-là vient d'une émission que j'ai entendue il y a très longtemps, c'était dans les années 90, France Culture, qui était une émission sur Virginia Woolf, une écrivaine anglaise que j'aime énormément. Et Virginia a perdu sa mère quand elle avait une douzaine d'années, je pense. Et elle raconte dans ses souvenirs, enfin dans son journal, que quand sa mère est morte, on l'a emmenée dire au revoir à sa mère. C'était vraiment les derniers moments. Donc elle est rentrée dans la chambre, elle a embrassé sa mère, elle partait. Donc elle était de dos et elle a entendu sa mère lui dire « Stand up, my little goat. Tiens-toi droite, ma petite chèvre. » Et c'est les derniers mots qu'elle a entendus de sa mère. Et pour moi, ça a vraiment fait tilt. Enfin, je me suis totalement approprié cette parole et cette espèce de... Enfin, je le sens presque à l'intérieur, le corps de cette gamine qui est toute droite, qui quitte à jamais quelque chose, quelqu'un qui est d'une importance phénoménale quand même. Et elle est là, elle est toute droite et elle part et elle n'a pas le choix. Et puis, bon, j'aime beaucoup les chèvres en plus. Donc j'ai fait une première pièce qui s'appelait Stand Up My Little Goat, qui était plus petite que celle-là, qui était émaillée, qui était noire et rouge, qui était très féminine, qui était vraiment une petite fille. Enfin, c'était une chèvre, mais elle avait quelque chose de très féminin. Je l'ai montrée dans deux expos, elle est revenue à l'atelier, c'était une pièce à laquelle j'ai des fois comme ça des pièces auxquelles j'ai un rapport un peu fétichiste, c'est-à-dire que je m'y identifie beaucoup, ça devient un peu des alter ego. Celle-là en était une. Donc elle était dans mon atelier en permanence et elle était dans le coin de l'atelier, toujours. J'ai un atelier qui est au rez-de-chaussée à Paris, pendant des années je ne fermais pas ma porte. Et un beau jour je suis rentrée dans l'atelier et la pièce n'était plus là. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un est rentré et a choisi cette pièce-là. Ils ne sont pas partis avec les outils, avec l'ordinateur, avec mon appareil photo, avec quoi que ce soit d'autre. Ils sont allés au fond de l'atelier, ils ont choisi cette pièce-là. Et ça a été très, très difficile pour moi. Donc pendant un moment, ma fille d'ailleurs m'avait fait... c'est assez drôle parce que j'ai une petite pièce que ma fille m'avait fait pour me consoler, qui est une sorte de pièce presque transitoire dans toute cette histoire. Et puis au bout de 4-5 ans, finalement, j'en ai refait une autre, mais qui a une énergie très différente, qui est beaucoup plus défiante. Elle est plus dans un défi, elle est à la fois complice, elle est moins directement féminine, elle est beaucoup plus androgyne, elle est ni masculine ni féminine, elle est ni enfant ni adulte, elle est plus étrange.
Un rapport frontal un peu, c'est vrai qu'elle nous regarde, pas de haut, mais justement elle est droite, cette chèvre qui nous regarde, ça, c'est déstabilisant. La chèvre peut évoquer bien des choses, le fait aussi de rappeler cette phrase dite par sa mère à sa fille sur le fait de se tenir droit à ma petite chèvre, ça peut évoquer aussi bien des choses pour l'avenir de cette petite fille qui va se construire en tant que femme dans le monde dans lequel on vit évidemment. Donc voilà, là pour moi j'y vois encore un clin d'œil à votre engagement aussi, c'est une parenthèse.
Engagement, c'est-à-dire que je peux pas le séparer de ce que je suis, donc à la limite je l'appellerais même pas ça un engagement, c'est-à-dire que c'est pas une position volontaire, c'est là où je suis le plus juste avec moi-même.
Alors comment vous en parlez alors de cet art avec vos élèves, le temps qu'on aille retrouver une autre de vos œuvres?
Alors déjà, j'enseigne aux Beaux-Arts de Paris, donc avec des jeunes femmes et des jeunes gens qui ont choisi de chercher à devenir artistes. Donc qui ont une idée en tête, ils ont un modèle ou des modèles, et ils n'ont pas tous forcément le même modèle. Ils n'ont pas tous forcément en tête la même construction finalement fantasmatique de ce que c'est qu'un artiste. Donc je pense que pour moi, une des choses qui est essentielle, c'est de pas leur fournir un modèle de plus. C'est-à-dire que je supporterais pas que l'enseignement de l'art soit l'enseignement d'un modèle. Où on leur dise un artiste, c'est ça. Et je leur dirai surtout pas, un artiste, c'est moi. Regardez-moi, je suis une artiste, c'est vrai. Mais ça m'est très important de leur dire, il y a différentes façons d'être des artistes. Et si on doit travailler ensemble, ce qu'on va faire, c'est essayer de que chacun de nous comprenne, c'est-à-dire y compris moi, quel type d'artiste vous voulez être. Et pour certains types d'artistes, je ne suis pas la meilleure prof. Et dans ce cas-là, il vaut mieux que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Et ça, je m'en rends compte, par moments, c'est très clair. Il y a certains étudiants qui ont un projet qui finalement va à l'encontre de ce que je suis capable d'enseigner. Ça va à l'encontre de ce que je crois, donc je peux pas les aider. Je serais complètement à contre-courant. C'est-à-dire. Donc il y a ce travail-là d'essayer de trouver où est-ce qu'ils veulent se positionner, ou qu'est-ce qu'ils cherchent finalement. Après, le reste, tout ce qui est de l'ordre du savoir technique, ça vient au fur et à mesure de leurs demandes. C'est-à-dire que, a priori, je n'enseigne jamais ce que je sais faire si on ne m'a pas posé la question de comment on le fait.
Si on pose la question, c'est qu'on est prêt, généralement, à recevoir l'enseignement.
C'est qu'on en a besoin. Et sinon, si on ne pose pas la question, c'est qu'a priori, on n'en a pas besoin.
Vous nous sans poser de questions, quelques mots encore sur une de vos œuvres, encore à découvrir dans le jardin de l'Atelier Blanc, dans le cadre du Festival Céramique, Anne Rochette.
Oui, alors celle-là, je l'appelle Sentinelle. C'est de nouveau une pièce composite. La partie du haut, celle qui fait corps, on va dire, est une sorte de tête phallique, on va dire. Puisqu'elle a un très grand cou ou corps, et c'est une tête sur laquelle se greffent trois chignons. Et il y a alors celle-là, elle est plus intuitive. Bon, c'est une pièce qui a suivi un séjour de plusieurs. Enfin, j'ai travaillé en Inde du Sud pendant plus de 6 mois avec des artisans potiers qui m'ont énormément appris. Cette pièce-là, elle a été faite 2-3 ans après d'être revenue. En tout cas, la partie en terre grise. Il y a un mélange, il y a la prédominance des femmes en Inde, la prédominance de la chevelure des femmes, il y a leur force, leur puissance, leur fragilité extrême en même temps. Donc il y a à la fois une position, enfin il y a quelque chose de la fascination et presque de la beauté de ces femmes. Il y a aussi quelque chose de cet état finalement de guerre, je trouve, assez permanente contre la femme, le féminin, dans leur corps. Alors pas symbolique, parce que le féminin en Inde est très fort symboliquement, mais par contre dans l'existence concrète et individuelle des femmes, elles sont d'une vulnérabilité terrible. Donc cette pièce-là, quand je l'appelle Sentinelle, c'est que je voulais une sorte de posture d'attention, de regarder surtout sur 380 degrés pour être attentif à tout ce qui vient et être prête pour tout ce qui vient. Donc elle est aussi quelque part un Janus, le dieu de la guerre grecque qui avait une double face, double tête. Janus, c'est le nom latin, mais je me rappelle plus comment il s'appelle en grec. Sauf qu'elle est triple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas binaire, elle est triple, ce qui m'importe aussi pour sortir des relations strictement binaires. Après, je l'ai posée il y a un mois sur ce socle qui est un petit tabouret de cuisine avec une plateforme où il y a émaillé comme un rappel de ces nappes à carreaux qui me font plus penser à ma grand-mère qu'autre chose, donc qui pour moi aussi sont de l'ordre du domestique et du féminin, sauf que le rouge habituel de cette nappe est devenu un peu plus sanglant et qui tend à couler dans le blanc.
Des mots forts, vous employez des mots forts. Donc j'y vois forcément un engagement dans votre art. Votre art n'est pas gratuit. Vos œuvres ne sont pas gratuites. Elles ont beaucoup de douceur. Il en émane quelque chose de très doux. Mais c'est interpellant. On y revient. Est-ce qu'on a bien vu ce qu'on a vu? Est-ce qu'on ressent bien ce qu'on ressent? On marche, mais sur des œufs.
C'est un compliment que vous me faites. Parce que un art qui serait gratuit, pour moi, est un art qui n'a aucun poids. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, encore une fois, je vais revenir, où les objets se multiplient et n'ont plus de... c'est même pas une question de valeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'intensité. On achète, on jette. On bouffe, on chie, c'est à peu près du même ordre. Et c'est sans doute avec moins de plaisir d'ailleurs. Si je mets toute l'énergie que j'ai à vivre dans cette pratique artistique plutôt que dans un travail social, un travail politique, un engagement plus concret dans la vie des gens, c'est parce que j'y mets quelque chose qui est quand même effectivement de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est un sens qui dépasse la production de formes plaisantes, agréables et immédiatement oubliables. Après, j'y arrive ou j'y arrive pas. Et ça dépend forcément de la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que je comprends et j'admets tout à fait qu'il y ait une partie du public qui va soit se détourner très rapidement, soit être une indifférence totale. S'il y a des gens avec qui tout d'un coup l'œuvre, ou pour qui l'œuvre se met à résonner ou à ouvrir des portes, dans ce cas-là, je me dis que bah oui, j'ai pas tout à fait perdu mon temps et que ça va.
Vous inquiétez pas, on vous suit, on ouvre les portes, celles du jardin de l'Atelier Blanc, pour vous inciter à venez nombreux, chers auditeurs de CFM, à venir découvrir le travail d'Anne Rochette, que vous pouvez découvrir donc jusqu'à la fin de cette semaine, jusqu'au 28 exactement. Merci à tous, une belle journée et on fait le plein de nouvelles expos tout bientôt. Bye bye.
CFM, le mag, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.